Sous les pavés, la Ferrarock.
Interview d'artistes.
Paroles de musiciens. Histoire de groupe.
Nous avons Agoria sur le plateau de la Ferrarock. Merci d'être venu.
Ben non, merci à vous de me recevoir déjà, je suis content d'être là, il est un peu tôt encore, 14h,
oui. Hein.
On n'est pas bien réveillé, mais bon voilà, on va faire comme si.
C'est ça, t'as bien mangé?
Pas encore, tu vois, là,
encore,
tu me prends à jeun, là, c'est dangereux, hein. On va essayer de ne pas dire trop de bêtises en même temps.
Le besoin, quand même, avant de mixer, il y a un besoin quand même de bien se nourrir ou il ne faut pas en faire trop?
Et écoute, j'ai pas jamais fait de test avec un diététicien pour savoir le nombre de calories qu'on devait avoir pour tenir des nuits entières. Parce que moi j'aime bien jouer très longtemps, j'adore faire des sets de 5, 6 heures, 7 heures. Ouais, c'est là où tu peux vraiment créer une histoire, emmener les gens avec toi. Et puis c'est là qu'il y a un truc qui moi me gargarise, me plaît. Bon, ce soir au Printemps de Bourges, ça va être un peu plus court évidemment, c'est un festival, donc c'est un format plus une heure et demie où. On est là aussi essentiellement par rapport à un line-up de soirée. On n'est pas là vraiment pour jouer uniquement les meilleurs trucs qu'on aimerait jouer au moment donné. Parce que j'arrive en plus à 3h30 du matin, après beaucoup de groupes. En dernier, en set de clôture, donc je vais être là pour faire plaisir aux gens, je pense, principalement. C'est aussi une caractéristique du DJing que j'aime bien.
C'est ouais,
que parfois,
bien.
C'est toujours délicat de faire à la fois jouer des morceaux... un peu pointu, des trucs que les gens connaissent pas, qu'on vient de recevoir, excitant, et puis en même temps d'être face à une foule, bah, quand t'es devant 10 000 personnes, évidemment ils connaissent pas tous les derniers morceaux
ouais.
qui sont sortis, donc
à moins les Trainspotters, tu sais,
mais 10 000 ça me semblerait beaucoup, voilà, on verra, mais c'est excitant toujours.
Alors Impermanence est sorti récemment, c'est pour moi l'album le plus subtil pour en termes de production et de mariage sonore, je trouve. Il y a beaucoup d'univers qui sont autant influencés par Maurizio, Plastic Man, des choses comme ça. Comment t'as travaillé tout cette façon de faire, ce travail un peu qui joue sur l'épure et l'hypnotisme?
Moi, je suis un grand fan de cette époque-là, Basic Channel, tu parles de Maurizio, Maurice Van Oswald, Marc Ernestus, puisque les deux, en fait, c'est Maurice Van Oswald et Marc Ernestus qui forment Maurizio, Basic Channel, qui ont créé le magasin Hardwax, évidemment Plastic Man, pour moi son album Consumed est un des meilleurs albums de musique électronique, je conseille à tous les auditeurs, un jour, si vous avez la chance de tomber sur cet album très très calme d'ailleurs de Plastic Man, qui est
le plus minimaliste,
très très bas, il est très...
Enfin, il faut écouter les yeux fermés avec un casque fort, ça fait des effets assez...
on a dû avoir la même expérience. non, voilà, c'est des artistes qui me sont chers, donc ça me flatte que tu compares ce disque.
Il y a un morceau en fait qui s'appelle Soulless Dreamer avec Seth Troxler qui a un travail sur l'épure qui est assez...
qui est assez dub minimaliste.
Voilà, ouais, c'est ouais. Ça, ouais.
Et ben, en fait, je pense que... J'ai toujours eu envie de mêler à la fois mes amours de mes premières heures de Détroit, de la musique techno, la musique minimaliste et évidemment ce côté répétitif de la musique électronique. C'est ce que j'aime dans la musique électronique. Souvent, la musique électronique est un peu galvaudée à des trucs électro-pop. Voilà, et donc les gens aiment ou n'aiment pas ça. Mais à la base, c'est quand même vraiment une musique répétitive. Cher à Steve Reich, qui avait écrit un truc sur le Perpetuum Mobileum. Et c'est vraiment quelque chose qui. Moi, j'ai toujours eu ça en moi. Et donc. Malgré le fait que je suis quelqu'un qui aime toutes les musiques, qui aime bien les métissages, j'ai toujours ça en moi. Donc c'est vrai que je pense que Impermanence est un album où on a des morceaux chantés, pop, avec Kida, Seth Troxler ou Carl Craig. Et en même temps, on peut sentir dans la façon dont j'ai produit les morceaux, je crois, ce côté amoureux du minimalisme des artistes que tu as cités avant. Ouais.
C'est dur de faire un album, on va dire, complet, concis, en créant une histoire Enfin, t'as appris au fur et à mesure parce que c'est pas ton premier album.
C'est le troisième, mais je pense que l'avenir nous dira si je conserverai cet avis, mais c'est celui où je me suis le plus retrouvé. Il me semble que dans les deux premiers albums, j'ai essayé de faire quelque chose et j'y suis réellement parvenu sur celui-là. C'est-à-dire qu'un album à la fois éclectique et en même temps très homogène, où c'est une histoire de A à Z. Il faut écouter ce disque de la première à la dernière minute. Enfin, je donne pas d'ordre, mais
c'est une histoire, quoi.
Voilà, pour vraiment rentrer dans le disque, c'est dommage de picorer, prendre un morceau par-ci par-là, parce que c'est enlever la touche shuffle de votre platine CD ou de iTunes qui fait le land pour vous, parce que voilà, je l'ai vraiment conçu. Même les plages, il y a une ou deux plages qui sont beaucoup plus courtes, qui sont des respirations, et sans ces plages-là, l'écoute, pour moi, à mes oreilles, fonctionne moins bien. Donc c'est un vrai travail d'album. C'est vrai que c'est une idée un peu
limite, c'est un peu ouf aujourd'hui de faire
limite, oui, voilà, c'est ça, qui est limite totalement daté, puisqu'aujourd'hui c'est plutôt la culture du de l'instantané. On fait un morceau, bing, on le sort. Et voilà, j'avais essayé vraiment depuis plusieurs disques de faire ça, j'ai voulu aller au bout de cette envie.
Travail, ouais.
Alors le prochain, peut-être que ce sera un album conceptuel avec 3 morceaux de 20 minutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais arriver à cet album-là comme ça. Ouais.
Quel regard portes-tu donc de ta carrière professionnelle ?
Oh putain, sacrée question, 14 heures. Quel est ton avis à toi ?
Bah, une évolution permanente.
Ouais. L'impermanence, tu crois? Non, je sais pas, c'est toujours difficile de porter un jugement. Je suis en tout cas très content aujourd'hui d'avoir créé un petit label qui s'appelle Infiné et de pouvoir signer tous les artistes que j'aime, qui sont totalement, pour la plupart, inconnus.
Et qui ont des carrières totalement différentes.
Et qui sont évidemment totalement barrés, chacun dans leur petit monde. Ouais. Donc il y a aussi bien Francesco Tristano, qui est un pianiste. Fantastique d'ailleurs, un pianiste extraordinaire qui a aussi un projet Offgang avec un de ses compères et le batteur de Cassius. Et puis on a Bachar Markhalifeh, chanteur libanais, Ron qui est
qui donne ce côté un peu poétique à la musique électronique un petit
complètement,
peu.
Complètement, Ron, et puis je suis très content, on sort un nouveau disque de Ron qui s'appelle So So So.
Ah.
Et je suis hyper content de ce nouvel opus, quoi. Pour moi, c'est la musique électronique parfois manque de mélodies, de belles mélodies, et ce côté un peu, comme tu disais, romantique, poétique. Ron est exactement dans ce schéma-là, quoi. Donc c'est le prochain disque qu'on sort. Et puis après, on sort Gaspar Claus et Pedro Soler. Pedro Soler, c'est un jeune homme de 70 ans. C'est un projet guitare flamenco et cello, donc rien à voir avec la musique électronique. Mais c'est un projet qui nous a touchés.
D'accord.
Donc voilà, c'est un peu un laboratoire en fait.
Mais ouais,
je suis content d'avoir créé une sorte de laboratoire.
C'est un genre de workshop un peu.
Et on verra ce qui va en ressortir dans quelques années. Mm. Peut-être, peut-être qu'on aura mis la clé sous la porte. Ou peut-être que voilà, on aura la chance d'avoir eu un projet qui trouvera un public et qui fera vivre le label pendant des années. C'est un peu ça le challenge pour nous, je crois. On est un peu sur des envies comme Domino ou Warp, évidemment, toute velléité d'ego mise à part. C'est vraiment des labels qui sont des labels forts et vraiment repères pour nous. C'est quand on voit leur travail, ce qu'ils ont fait depuis beaucoup d'années, ils sont toujours un peu hors tendance, et c'est pour ça qu'ils sont toujours là et qu'ils arrivent à intéresser beaucoup de monde, quoi. Donc voilà, on est plutôt dans cette lignée là quoi.
D'accord. Et parle-nous aussi un petit peu alors j'avais été l'année dernière à la Carrière de Normandou,
et moi j'étais pas, je sais,
il y avait des workshops où j'avais vu Clara Motto, Touré Kunda, et puis il y avait Dorian Concept aussi.
Ouais, c'était fantastique, bien, Dorian
c'était,
Concept
c'était bien puissant, hein, franchement, et public d'ailleurs qui assez âgé, ça m'a assez étonné d'ailleurs. Enfin, c'est un public vraiment... limite, on a l'impression d'avoir... Il y a un parallèle avec le public de jazz, dans ce genre de... On va pas dire catégorisation, mais de cette musique qui...
Alors j'espère qu'on va pas s'enfermer dans un créneau de jazz, parce que c'est un peu... j'aime bien faire la fête, donc ça risque d'être un peu trop coincé. Mais ouais, on fait des disques qui sont pas forcément des disques les plus simples à écouter, donc c'est un peu comme le jazz. Et la musique électronique pointue, ça... Il faut passer un peu de temps, il y a des codes un peu à appréhender.
À apprendre.
Donc ça demande un petit peu d'effort d'écoute. Donc le parallèle avec le jazz est assez vrai là-dessus. Mais voilà, on a fait une semaine à la Gaîté Lyrique la semaine dernière, par exemple.
C'était comment?
Bah ouais, c'était super.
C'était cool.
On a fait, notamment, il y avait une création de Carl Craig avec Maurice Van Oswald et Francesco Tristano, que vous pouvez choper, je crois, sur Arte Live.
C'est
Live
Web.
Ouais. C'était une vraie belle rencontre, quoi. Donc on aime bien ce côté laboratoire. Donc t'as eu la chance d'aller au Normandou, moi j'ai pas encore eu le temps d'y aller.
Tu as trouvé un de ces quatre du temps
J'espère, oui, j'espère. On le refait l'année prochaine, mais comme je suis en tournée, c'est l'époque, voilà, je crois qu'il y a de Wire Festival au Japon où je vais être, donc je suis pas sûr de pouvoir y être.
Ok. Et dernière question, on a le temps.
Dernière question.
Est-ce que t'étais du genre à disséquer les disques quand tu étais gosse?
Pour regarder les crédits et pour voir qui était remercié.
Et puis même comprendre comment ça marchait.
Alors en fait, quand j'étais gamin, mon problème surtout, c'est que les disques, j'achetais souvent les disques qui étaient tout blanc où rien n'était écrit.
C'était des white labels.
Et ben c'était l'époque où moi que j'ai au milieu des années 90, on achetait des disques, on savait pas qui les faisait. Il y avait pas d'image, il y avait pas de c'était en général plus d'ailleurs c'était blanc et puis ou noir et on savait pas, puis on avait envie de l'acheter. Donc il y avait pas grand-chose à lire, donc c'était difficile de disséquer et souvent c'est vrai, on regardait beaucoup plus s'il y avait des sortes de bon là on est dans des discussions de mélomanes mais des petites les petits stickers. Donc c'était marqué soit Hardwack, soit Submerge qui étaient deux magasins de disques et qui sont d'ailleurs deux magasins de disques toujours extraordinaires aujourd'hui, ouais. Un de Détroit et un de Berlin, ouais. Et on achetait les disques parce qu'ils venaient et qu'ils étaient distribués par eux quoi. Donc c'était ça que je disséquais plus pour voir d'où ça venait et si ça pouvait me plaire.
T'avais une certaine culture du désir un petit peu.
Totalement.
C'est ouais. Ça.
Mais puis il faut un petit peu et c'est un grand débat ça, la culture du désir aujourd'hui pour la musique, parce ouais. que tout est offert, tout est donné. Donc j'ai l'impression néanmoins beaucoup plus de trucs qui sortent aujourd'hui, notamment uniquement en vinyle. Donc je suis pas naïf, je pense que le vinyle va évidemment disparaître dans quelques temps, mais c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'artistes qui continuent à vouloir sortir disques que en vinyle. Et personnellement c'est un problème parce que énormément de disques ne sortent pas en digital, on peut pas les trouver ou en CD, donc je suis obligé d'acheter les vinyles et ensuite de les réenregistrer parce qu'on peut pas jouer de vinyle aujourd'hui dans des festivals ou dans des clubs parce que tout ce qui est sound system etc ne sont pas prévus pour jouer des vinyles parce que voilà les fréquences sont beaucoup trop graves et donc un rumble, du coup les disques sautent, enfin c'est un peu galère, donc ouais. C'est une période assez bizarre pour les DJ. Ouais.
D'accord. Bah merci beaucoup. Et puis aussi en parallèle, il y a aussi le mix numéro 57.
Et ils en ont fait beaucoup maintenant, Fabrique.
Hein. Ouais, ça fait bail là. T'es le deuxième français, si je me trompe pas, avec Yvan Smag à signer sur le club et le label Fabrique.
Il y aurait dû avoir Justice, mais je crois que c'est Justice avait été refusé par le club. Et ouais. Oui, je crois que l'autre c'était Yvan Smag en effet, qui est un DJ aussi que j'adore, qui l'a fait peut-être 5-6 ans. Voilà, on nous fait des grands signes, on est à la radio, on vous dit ce qui se passe un peu autour, donc on va arrêter. Parce que je crois qu'on prend un peu trop d'espace.
On prend trop de place, c'est ça.
Bon, merci à toi en tout cas.
Pas de quoi, et puis donc tu joues vers 3h du mat, si je
Exactement, c'est pour les. Bah, quand vous vous levez, vous venez au Printemps de Bourges et vous aurez l'occasion
Pré-after.
De voir. Voilà, exactement.
Merci à toi.
Merci.
Retrouvez d'autres interviews sur ferrarock.org.